c'est Patrick Dabas. Venez donc prendre l'air avec les ailes anciennes. Je vous y invite sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse.
Bonjour à tous, amis de l'aviation et de son histoire. Ensemble, dans ces chroniques, nous croisons l'histoire des hommes et des machines qui ont ouvert la route à ce qui fait notre quotidien, et nous les remercions en les mettant à l'honneur, parfois en les sortant de l'oubli, ou plus grave, de l'ignorance, parfois en relevant un événement historique ou populaire qui leur soit contemporain. J'ai déjà pu évoquer ce pilote. Il est de ceux qui ont illustré ce merveilleux avion Caudron G3, appelé parfois cage à poule par allusion à sa structure en tube. C'est un personnage incroyable, connu aujourd'hui malgré tout des initiés, mais connu surtout pour un exploit considéré comme isolé et en forme de fait divers ayant défrayé la chronique de son époque. Il a posé son Caudron G3 sur la terrasse du grand magasin parisien des Galeries Lafayette, sur les grands boulevards à Paris, le 19 janvier 1919. Et si j'introduis le sujet par cette anecdote, c'est pour mieux mettre en évidence les facultés d'oubli, voire d'ingratitude de la mémoire des foules, des institutions et des générations suivantes. Et bien évidemment, je mets en avant cette péripétie pour démontrer que, dans l'histoire de l'aviation, elle a occulté l'essentiel d'une vie bien remplie, mais, dans ce cas, trop courte. Un auteur d'article spécialisé dans l'histoire de l'aviation a pu écrire à son sujet « Il aurait pu devenir le plus grand pilote du monde avant 1914 s'il n'avait pas eu un caractère épouvantable ». Notre homme s'appelle Jules Védrine. Il est né le 29 décembre 1881 à Saint-Denis. Il est le troisième enfant, ils seront six au total. À cette époque, Clément Ader observe toujours les oiseaux et les chauves-souris, rêvant d'en reproduire le vol. Le père est couvreur en même temps que pompier volontaire. Manifestement peu concerné par les études, mais passionné par l'histoire et la géographie, après son certificat d'études, Védrine s'oppose à ses parents qui voulaient le voir continuer dans les études. Son père lui impose alors de le rejoindre sur les toits. Il sera aussi plombier et semble avoir fait beaucoup de petits boulots, tenaillé par l'envie de voir du pays. C'est ainsi qu'il mène une vie de bohème à travers le pays, travaillant ici ou là comme tourneur sur bois, vie dont il dit lui-même une école merveilleuse dans les bois et sur les routes. De fait, il se révèle très habile, très adroit de ses mains. Il a du succès auprès des jeunes filles, mais c'est Aurélie qu'il choisit et il se marie en 1908. Il est embauché à l'usine de Gnome, fabricant de moteurs. Jusque-là, il ignorait tout de ses moteurs comme également de l'aviation à laquelle les moteurs l'étaient destinés. Dans cet environnement, il apprend vite et devient metteur au point. Mais il a de l'admiration pour les pilotes qui côtoient à l'usine, un peu bluffés par le récit de ce qui est forcément des exploits. Son employeur l'envoie chez Farman, le constructeur d'avions déjà renommé. Et là, il fait une première rencontre décisive en la personne d'un Anglais qu'il embauche comme mécanicien et chauffeur à des conditions financières inespérées. Robert Loren, c'est le nom de cet Anglais, est un excentrique, tantôt acteur, tantôt aviateur. Il a été le premier à traverser en septembre 1910 la mer d'Irlande avec un biplan Farman, après avoir cassé beaucoup de bois, selon l'expression de l'époque. Il ne faut pas confondre une traversée de la mer d'Irlande avec celle de la Manche que Blériot avait effectuée quelques semaines plus tôt. Cette mer est plutôt un bras de mer entre la Grande-Bretagne et l'Irlande, d'une largeur variable selon le point de départ et celui d'arrivée, entre les deux rivages très irréguliers et découpés. En l'occurrence, le parcours de Lorraine était plus long que celui de Blériot. Il faut dire qu'en peu de temps, les exploits se sont multipliés et ont de ce fait moins de retentissement. Avec Lorraine, Védrine avait un emploi passionnant puisqu'il voyageait et surtout voyait voler son patron et d'autres pilotes, notamment Hubert Latam, le concurrent malchanceux de Blériot lors de sa traversée. Il bichonnait les Farman du patron qu'il réglait parfaitement et qu'il réparait. On peut même dire qu'il reconstruisait le plus souvent tant l'apprentissage était long et difficile. Pourtant, après 6 mois de cette vie plutôt sympathique et lorsque son patron lui propose de renouveler son contrat, il prétexte de mal supporter le climat et la nourriture de l'Angleterre pour reprendre sa liberté. Ne connaissant pas l'homme, on ne comprendrait pas cette décision. En fait, il a le mal du pays et de son milieu familial. Et puis, il ne pense qu'au pilotage, il en rêve. D'ailleurs, en quelques mois d'un bon salaire, et sans avoir eu trop de dépenses à assumer, Vedrine avait pu faire des économies. Et comme le virus l'avait contaminé et qu'il rêvait de piloter, les 1500 francs qu'il avait pu mettre de côté lui permettaient de s'inscrire à l'école de pilotage de Pau, que Blériot y avait créée, un peu plus tôt, en rejoignant l'Américain Wright, qui était déjà installé avec sa propre structure. On a vu qu'en France, les écoles de pilotage étaient basées en région parisienne ou en Picardie. Mais Pau était réputé pour son climat, c'est toujours le cas d'ailleurs, et cette implantation permettait de voler le plus souvent dans des meilleures conditions, tout simplement. Pau sera, dans les années suivantes, un très important centre de formation, d'autant que les autorités militaires intégreront vite l'intérêt de l'aviation dans les conflits pour la reconnaissance à bord, puis les combats aériens. Des grands noms comme Guynemer ou les pilotes de l'escadrille Lafayette y seront formés. Après beaucoup d'insistance et de délais qui lui font dépenser son précieux argent, il est enfin admis à s'installer aux commandes. En une semaine et 5 vols, il obtient déjà son brevet. Il hérite du numéro 312 et on est le 7 décembre 1910. Si je donne cette précision, parce que le brevet de pilote a été institué au 1er janvier 1910 et qu'en une année, plus de 300 brevets ont été délivrés. Je rappelle que le numéro 1 avait été décerné à Louis Blériot précisément, peut-être parce qu'il avait accompli son exploit 6 mois plus tôt. Je dis peut-être parce qu'on dit aussi que dans une liste d'hommes ayant volé avant la fin de 1909, il était le premier dans l'ordre alphabétique. Petite anecdote, mais de grande importance dans cette histoire. Dans ces écoles de pilotage, les apprentis pilotes étaient obligés de payer les dégâts qu'ils pouvaient causer aux avions. Et ce qui n'était pas rare, notamment au niveau des trains d'atterrissage. Comme généralement ces apprentis pilotes avaient les moyens, cela ne posait pas de gros problèmes. Mais Vedrine n'était pas précisément un homme à gros moyens et ses colères, parfois menaces suite à contestations, ont marqué à l'école. En effet, lui, issu du peuple et des faubourgs, sans beaucoup de culture et du moins autodidacte, tranchait notablement au milieu des personnes venant de milieux bourgeois et huppés. On était loin de Roland Garros, de son milieu et de son élégance. Pour faire bon poids, le caractère bouillant de notre homme et ses écarts de langage le distinguaient singulièrement, d'autant qu'il n'était pas toujours tendre avec certains et qu'il qualifiait souvent d'aviateur de carte postale, ce qui n'était pas toujours faux, tant il est vrai que ce qui n'était pour quelques-uns qu'un riche loisir chic et snob faisait parler plus qu'agir. Il a pu récupérer une partie de sa caution, non sans contester être le responsable de dégâts relevés sur l'avion qu'un des moniteurs venait d'utiliser. Toujours à court d'argent, il n'était pas question pour lui de pouvoir acquérir un avion, il avait contacté tous les constructeurs, notamment Blériot et Farman, mais ses patrons d'entreprise n'envisageaient pas de confier un avion à ce garçon que le biographe baptisa plus tard ce parigot gouailleur et gavroche incorrigible. Alors il traîne un petit peu, il est réduit à vendre ses meubles pour en tirer un peu d'argent et finit par revenir chez Gnome, son premier employeur. Un contact avec un constructeur du nom de Goupy a pu paraître un peu moins négatif sans pour autant aboutir. De guerre lasse et pas décidé à attendre davantage, Vedrine va sur l'aérodrome de Juvisy, discute avec un contremaître de chez Goupy précisément, arrive à le convaincre de lui prêter un petit avion, ou, plus probablement, de faire celui qu'il n'a pas vu partir. Ce culot, qui aurait pu se révéler désastreux par la suite, va se révéler payant. En effet, après avoir volé pendant plus d'une heure et probablement à court d'essence, il est accueilli à son atterrissage par M. Goupy lui-même, sans doute furieux, mais malgré tout souriant, sinon ravi. En effet, son avion n'avait jamais si bien volé, ni volé si longtemps sans problème. Alors, avec un avion Goupy militaire, un biplan équipé d'un moteur Gnome, il aligne au mois de janvier 1911 un certain nombre de voyages entre Juvisy et certaines villes proches comme Étampes ou Melun, dont un voyage dans la brume et sans la moindre carte. De toute façon, à ses débuts, ces cartes, il n'aimait pas avoir à s'en servir. Pour lui, les seules cartes qui présentaient un peu d'intérêt était celle qui traçait les lignes ferroviaires. Il excellait à survoler et suivre les voies ferrées. Il disait aussi ne rien comprendre au mouvement de la boussole et rétorquer « J'ai l'instinct de l'oiseau, je sens où je dois aller ». Ça fait un peu peur quand on y réfléchit, mais ça dépeint bien le bonhomme. Bien sûr, il aurait pu demander à d'autres pilotes plus exercés à la navigation de l'aider. Mais il répugna à le faire toujours à cause de ce sentiment d'infériorité, d'instruction et d'origine sociale. Et il voulait compenser cette situation en se faisant remarquer, pas toujours de bonne façon, mais par des actions à retentissement. Il pensait que la notoriété ainsi acquise ferait absoudre ses incartades. Par exemple, il s'était mis en évidence un jour de brouillard en survolant et en traversant Paris d'est en ouest, toujours sur un biplan Goupy. Ce n'était pas franchement autorisé, et on a pu dire qu'il n'était pas passé vraiment très loin des tours de Notre-Dame. Mais le lendemain, tous les journaux parisiens en parlaient et publiaient des photos de lui et de son avion. Cela méritait des sanctions, mais on est au début 1912 et l'aviation civile n'a pas encore mis en place les structures qu'on a connues par la suite et les contraintes énormes que le développement de l'aviation a dû créer ensuite et que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, il est difficile de réprimander un homme qui accumule les exploits, fût-il discutable dans leur réalisation, et exploit qui enthousiasme tant un public qui découvre tous les jours une activité excitante et des hommes de caractère et de talent. Pour continuer à se faire remarquer, il fait à la vitrine des montures plus performantes que son Guppy. Il tente alors sa chance vers Léon Morane, qui avait créé l'entreprise Borel Morane. Morane fabriquait des avions, et Borel, plus exactement les frères Borel, alors marchand de voitures d'occasion, s'occupait de la gestion et des finances. Lui-même, un peu surpris de son culot, il s'attendait plutôt à se faire jeter en se présentant ainsi, et tout surpris d'être entendu et même écouté. Il ne pouvait pas savoir que la société était en manque de pilotes. Encore un coup de culot ? Je vais vous raconter la suite à notre prochain rendez-vous sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse.
Altitude.